Royaume forain, seconde partie. Le cirque, rite, mythe et transe. La construction des numéros forains n'a rien de fortuit. La parade circassienne trouve ses multiples références dans des rituels sacrés et des mythes initiatiques. Le spectateur ne voit que la maya, le voile d'illusions qui enchaîne les disciplines les unes aux autres. Sous le kitsch spectaculaire se cache une infinité de généalogies mythologiques. Dans l'Empire Ming chinois ou le Royaume Han, la suite des numéros montre la transmigration des âmes, du monde des morts à celui des vivants, et aussi bien la métempsychose, le passage des défunts dans l'Empire ou l'Enfer. Aujourd'hui encore, un simple tour de chaise enchâssé s'élève du monde terrestre à celui des esprits. L'historien Pascal Jacob, auteur de nombreux livres capitaux sur le sujet, nous décrit l'histoire qui relie les rites, mythes et trans au cirque et ses évolutions. Mais c'est tout l'art moderne qui est engagé dans cette aventure. Jean Sorbinski, dans Portrait de l'artiste en saltimbanque, faisait remarquer comment l'art contemporain a rejoint l'art forain. Il écrivait ceci. Depuis le romantisme, le bouffon, le saltimbanque et le clown ont été les images hyperboliques et volontairement déformantes que les artistes se sont plu à donner d'eux-mêmes, et la condition même de l'art. Il s'agit là d'un portrait travesti dont la portée ne se limite pas à la caricature sarcastique ou douloureuse. Une attitude si constamment répétée, si obstinément réinventée à travers 3 ou 4 générations, requiert l'attention. Le jeu ironique a la valeur d'une interprétation de soi par soi, c'est une épiphanie dérisoire de l'art et de l'artiste. La critique de l'honorabilité bourgeoise s'y double d'une autocritique dirigée contre la vocation esthétique elle-même. Nous devons y reconnaître une des composantes caractéristiques de la modernité depuis un peu plus d'une centaine d'années. Pascal Jacob.
Le premier homme qui a essayé d'enfermer un animal et de le montrer à ses semblables, il initie quelque chose qui participe de la curiosité, de la démonstration, de la monstration aussi, de l'exhibition. Et donc là, évidemment, c'est très difficile à dater parce qu'on ne sait pas si quelqu'un a enfermé dans une caverne, pourquoi pas un ours, ou qu'il a réussi à emprisonner et qu'il en a fait un objet forain, en fait. Donc ça pourrait. Mais là, évidemment, on est dans une trace intangible. Je pense que le moment où les choses se cristallisent, au moins dans une partie du monde, de façon quasi certaine, c'est notamment sous l'avènement de la dynastie Han en Chine, à partir de 206 avant Jésus-Christ, en gros. Ça, c'est un moment précis, mais c'est dans cette période-là. Parce qu'auparavant, ce qui va composer le registre acrobatique, notamment, participe davantage d'une forme sacrée et tout à fait reliée à des célébrations, à des rites, et qu'il va falloir attendre les Han pour que ça devienne, en fait, un élément de spectacle, même si dans un premier temps c'est réservé plutôt à la cour et à un public d'initiés, mais ça reste malgré tout le moment où on va passer au filtre, en fait, des formes tout à fait classiques aujourd'hui. On a envie de dire que elles n'ont pas vraiment bougé ni vraiment évolué, hein, la contorsion, l'équilibre, la manipulation d'objets, etc., qui ont souvent des origines multimillénaires, mais qui au moment des Han franchissent un cap et deviennent des formes spectaculaires. C'est-à-dire qu'elles commencent à être cataloguées, elles entrent dans la liste de la théorie des 100 divertissements, et donc à partir de là, on commence non pas à leur donner forcément un nom spécifique, mais une sorte d'identité collective, hein, qu'on va rassembler sous le terme de Baixi, d'une forme, une manière de définir en fait des formes artistiques développées par rapport à un public. Ça nous renvoie, pourquoi pas, au théâtre en grec, le lieu d'où regarde le spectateur.
Ultime répétition, nous avons pu assister dans le prestigieux décor de la cité interdite de Pékin, devant le temple de la suprême harmonie, au spectacle qui est présenté depuis hier soir au palais de Chaillot et que les Parisiens pourront voir pendant tout le mois d'octobre.
Donc à partir de ce moment-là, à partir de cette première cristallisation aux alentours de 100 peut-être après Jésus-Christ, donc ça prend du temps évidemment, mais ça va relâter. Il y a un vrai temps d'accélération à partir des Han. Ces disciplines sont rassemblées sous un vocable commun, mais en même temps, elles affichent une vraie diversité. Alors sans les 100 divertissements, évidemment, on est On est sans doute au-delà d'une centaine, ça rassemble les marionnettes, ça rassemble la musique, la danse, mais bien évidemment, et c'est ça qui est le plus intéressant sans doute, l'acrobatie, le jonglage, etc. Tout ce qui va donner en fait naissance, le noyau dur peut-être, de ce que vont être les formes de cirque, évidemment beaucoup plus tard. Le moment où l'acrobatie va échapper à cette vision collective des formes, c'est la dynastie Tang, donc c'est un peu plus tard, au 7e siècle après Jésus-Christ, donc là on a franchi la ligne du calendrier chrétien, et donc à ce moment-là, la dynastie qui célèbre véritablement l'âge d'or de la culture chinoise va imaginer un pictogramme pour définir l'acrobatie. Et donc à partir de là, il y a une nouvelle étape qui est franchie, c'est-à-dire que sous le terme d'acrobatie, évidemment, vont se ranger toutes les disciplines qui jusque-là faisaient partie des 100 divertissements. Mais c'est une espèce de sous-catalogage. Et ce qui est sans doute encore plus important sous la dynastie Tang, c'est que ce moment va être celui de l'ouverture de la première école de transmission acrobatique. Donc on parle du 7e siècle après Jésus-Christ. Et donc on se pose la question de la pérennité des formes. C'est-à-dire que non seulement on accepte l'idée qu'elles appartiennent à un registre spécifique, on leur donne une identité, et en plus, pour être certain qu'elle n'y aura pas de déperdition de sens ni de technicité, on imagine un lieu dans lequel on va pouvoir les enseigner à finalement des jeunes gens issus alors plutôt de milieux choisis, mais en même temps c'est déjà en tous les cas une première accessibilité. C'est une notion qu'on ne découvrira nous en Occident qu'au XXe siècle. À partir de la deuxième moitié du XXe siècle, donc beaucoup plus tard. Donc c'est un moment clé aussi, parce que d'un seul coup, ces formes appartiennent à la fois à celui qui les regarde, mais aussi à ceux qui les font, hein, qu'on s'attache vraiment à ce qu'elles puissent se poursuivre et surtout, évidemment, se développer. On imagine bien évidemment qu'à partir du moment où on n'est plus dans des formes empiriques, où on apprend au fur et à mesure, au fil du temps, etc., mais qu'au contraire, on passe du temps à apprendre et à essayer d'aller au-delà, de transcender les limites, etc., tout vient de là, évidemment, c'est un immense pas en avant.
La nuit des forains, Ingmar Bergman, 1953.
Les cirques de village aujourd'hui, il y a un numéro traditionnel qui consiste en un numéro d'équilibre de chaises. On empile des chaises et on prend des pauses au fur et à mesure que les chaises s'empilent. C'est un numéro explicitement chinois. Pour l'œil occidental, forcément, les chaises empilées, les acrobates qui font des équilibres insensés sur cette pyramide de chaises, c'est chinois. Et pourtant, on le voit sur la moindre place de village, le moindre petit cirque de petits voyageurs accomplit la même chose. Alors, évidemment, la question, c'est ont-ils regardé la télévision et l'ont-ils appris là, ou est-ce que cela vient d'ailleurs? Et évidemment, c'est évidemment la deuxième réponse, c'est pas la télé. C'est que les équilibres de chaises ou sur de petits supports viennent de la Perse et ont été évidemment apportés par les tziganes, qui à la fois les ont communiqués sans aucun doute à des saltimbanques qui sont partis vers l'Extrême-Orient et d'autres qui sont partis plutôt vers l'Occident. Et à partir de là, on a une espèce de matrice commune d'une discipline qui à la fois va devenir un emblème, un symbole de la virtuosité chinoise et en même temps aussi que l'on retrouve de façon beaucoup plus humble sur une place de village, sur une place publique à partir du 18e, même du 17e, 18e, 19e, 20e et 21e siècle puisque c'est une discipline qui perdure. Donc il y a là quelque chose, à mon avis, de très très intéressant dans cette espèce de porosité des formes qui permet en fait que, si on peut toujours se dire que oui, les Chinois ont tout inventé, mais en fait, peut-être pas. Et il y a encore sans doute beaucoup de choses à découvrir et quelques mystères à percer. Mais il y a là quelque chose, il y a une ligne de force en tous les cas qui me semble tout à fait évidente entre ces deux continents. sait que les Romains sont allés très très loin aussi au-delà des frontières. On sait par exemple qu'une troupe, un groupe d'émissaires romains s'est trouvé à Nankin, donc dans une capitale chinoise, et ont vu des nains et ont été tellement fascinés qu'on leur aura offert 10 paires pour qu'ils viennent et qu'ils les montrent à l'empereur romain du temps. C'est troublant parce qu'on imagine là évidemment des connexions au-delà des logiques guerrières ou économiques. C'est quelque chose de totalement anecdotique et en même temps ça révèle une fascination qui transcende les frontières, qui transcende les lignes, qui transcende le temps en fait. Et à partir du moment où on va avoir cette espèce de fusion entre des savoir-faire multiples issus de l'Asie qui sont confrontés à ceux d'un Occident qui balbutie, parce que c'est encore tout à fait embryonnaire, c'est pour moi le fondement de ce que va être l'acrobatie occidentale qui va continuer d'évoluer, de se développer et qui va exploser avec l'avènement du cirque moderne en 1768, donc effectivement, la deuxième moitié du XVIIIe siècle, c'est-à-dire un moment où la révolution industrielle commence à se faire jour. Et, c'est encore très, très simple, mais ça va prendre de plus en plus d'importance et évidemment, ça tiendra son apogée au XIXe siècle.
Et maintenant, mesdames et messieurs, l'attraction que vous attendez. Le numéro le plus sensationnel du siècle.
Lola Montez, comtesse Maria Dolores de Landsfeld, en chair et en os.
Lola Montez, Max Ophüls, 1955.
La vérité, rien que la vérité, sur la vie extraordinaire de Lola Montez, représentée par toute la troupe, en pantomime, acrobatie, tableau vivant, avec musique et danse, et avec tout l'orchestre.
Se reporter notamment à certaines fresques égyptiennes, et notamment la fresque de Béni Hassan qui représente des jongleuses, dont on ne sait absolument pas pourquoi des jongleuses, pourquoi des femmes. Est-ce que ce sont des jongleuses? Oui, sans aucun doute, parce que la façon dont on représente des petites sphères claires tendrait à prouver qu'elles lancent et qu'elles manipulent. Alors, pourquoi pas? Est-ce que c'est un rapport religieux? Est-ce que c'est un rapport...
En Égypte, les jongleurs étaient sacrés.
Oui, mais pourquoi des femmes? Pourquoi la tombe des jongleuses à cet endroit-là? C'est assez peu courant, malgré tout, en termes de représentation sur les fresques. Donc il y a une petite énigme, sans aucun doute. Mais on voit aussi sur sur les fresques des contorsionnistes qui, en général, ont des postures classiques, avec souvent le poignard érigé sous l'arc du dos. Donc il y a évidemment la notion de danger augmenté. Il y a aussi l'idée de la transcendance. L'acrobatie à ce moment-là, elle est évidemment très très largement symbolique. Donc l'acrobate est une figure de progrès, c'est-à-dire qu'il est capable de se mettre en état de déséquilibre, d'instabilité physique, et en même temps de se rétablir par sa force. Donc évidemment, dans les tombes, dans les lieux funéraires, la représentation de l'acrobate est une sorte de symbole d'accession d'un monde à l'autre. Donc il y a là évidemment quelque chose de très fort dans la dimension du corps acrobatique. Donc les Égyptiens qui ont énormément transmis à la civilisation grecque, qui elle-même, il faut bien se souvenir qu'à partir de 131 après Jésus-Christ, la Grèce est une colonie romaine, donc qui ont eux-mêmes beaucoup donné, ou se sont fait prendre en tous les cas, énormément de choses par les Romains. que les Romains ont cultivé un certain nombre de savoir-faire spectaculaires. Alors, on met de côté évidemment l'amphithéâtre ou le cirque, mais on a trouvé des représentations figées en terre cuite ou en bronze d'acrobates, notamment des figures étrusques, mais également aussi un peu plus tardives de jongleurs, et qui sont d'une précision absolument incroyable. Il n'y a pas de doute, c'est véritablement un jongleur. Donc cette manipulation qui s'offre sur les places publiques, qui s'offre aussi dans le contexte de spectacles qui sont toujours reliés à une dimension sacrée. Et on sait qu'il y avait des jongleurs, des acrobates à cheval, des montreurs de bêtes, des équilibristes, des danseurs de cordes. Donc il y a déjà là tout un répertoire issu à la fois de l'Asie mineure, de l'Égypte, de l'Asie centrale, de la Grèce, qui se cristallise à Rome, qui va être évidemment à la chute de l'Empire au 5e siècle, le point de départ, parce que tous ces éléments ont souvent pour point commun des lieux pour se produire, qu'à partir du moment où l'Empire romain va éclater et disparaître assez vite, ces éléments-là n'ont plus vraiment de lieu d'exhibition prédéfini, donc ils vont partir sur les routes et aller davantage en quête d'un public beaucoup plus élargi. Donc on n'attend plus forcément les moments de cérémonie pour se produire, mais au contraire on va à la rencontre d'un spectateur potentiel dans les villages, dans les villes, dans les palais, dans les châteaux, etc. Et c'est le début d'une première itinérance médiévale qui va se structurer au fil du développement des foires, les grandes foires médiévales qui sont évidemment des repères et qui deviennent une cristallisation calendaire, c'est-à-dire qu'on va profiter en fait des différentes foires pour construire une tournée, c'est-à-dire qu'on est déjà dans une itinérance codifiée et évidemment il n'y a pas forcément une concertation entre les troupes et de nouveau on retrouve cette notion de contamination puisque les uns et les autres se rencontrent en un point donné, se concurrence évidemment, mais en même temps aussi échange, partage, et à partir de là, on a cette espèce de, on pourrait appeler ça un chaudron si on veut, de bouillonnement en tous les cas, d'effervescence, peut-être pas forcément créative dans le sens du renouvellement des techniques, puisqu'on est déjà dans une forme de pérennisation, puisqu'on se rend compte en fait que le vocabulaire il est relativement commun, que ce que les tziganes vont apporter, issus d'une tradition moyen-orientale ou extrême-orientale, rejoint dans sa façon d'être, dans sa forme, ce que les Égyptiens, ce que les Cisicéniens ont transmis aux Grecs, qui eux-mêmes ont transmis au reste de l'Europe. Donc finalement, il y a de véritables lignes, de lignes de force, mais un sens commun à ce répertoire, ce vivier acrobatique. Et c'est là le point de départ, en fait, de ce qu'est l'acrobatie en Occident. Donc à la fois, il y a échange, peut-être transmission, parce que c'est vrai que les tziganes avaient notamment le savoir-faire avec les animaux, qui est sans doute moins commun, même s'il y a une tradition de mensuétaires romains, hein, qui eux-mêmes avaient une connaissance implicite reçue de certaines ethnies d'Asie mineure, notamment les Sirtes, qui avaient eux-mêmes une connaissance implicite de l'apprivoisement des animaux. Et donc là, évidemment, il y a aussi un lien tout à fait clair et la manipulation d'objets à traverser le temps.
Le magicien Kasagi, numéro d'illusion.
Bonsoir, madame. Oh, bien, mais désolé, voulez-vous regarder s'il y a quelque chose qui était à la... Non ? Eh bien, merci. Merci beaucoup. Voilà. Tenez, monsieur, vous me permettez, voulez-vous regarder, si vous voulez, s'il y a quelque chose qui est là-bas. Tenez, mettez votre main comme ceci. Il y a quelque chose là, il y a quelque chose. Il n'y a rien. Eh bien, je vous remercie, voilà.
Moi, je crois très fort que le développement de l'architecture de cirque est lié à la franc-maçonnerie. C'est-à-dire qu'il y a un vrai propos ésotérique dans la constitution même de l'espace de la salle de cirque à partir du XVIIIe siècle. Et c'est évident. L'idée force, c'est que il y a une espèce de connexion, en tous les cas, entre deux univers. Alors, bon, elle peut paraître un peu arbitraire, mais quand on commence à chercher un tout petit peu, on se rend compte que tous les fondateurs, les grands fondateurs, les initiateurs, les précurseurs du cirque moderne étaient francs-maçons. Bon, à la limite, pourquoi pas, ça pourrait être une coïncidence. Maintenant, quand on cherche un peu, encore plus, on se rend compte que beaucoup d'entre eux ont des origines militaires et que la maçonnerie, à partir de... La maçonnerie est née en 1723, au moment de la publication des constitutions d'Anderson en Angleterre, comme le cirque. Et donc, à partir de là, le cirque 1768, on est dans quelque chose finalement d'assez proche. En même temps, il y a presque un demi-siècle qui s'est écoulé, donc les choses ont pu déjà se formaliser d'une certaine façon. On n'est pas tout à fait dans un propos initial ou embryonnaire. Donc il y a cette connexion à cette idée que l'on est dans un espace privilégié où des hommes se rassemblent pour échanger des idées. En même temps, il y a quelque chose de discret dans ce rassemblement. Et quand on s'intéresse un tout petit peu aux symboles et à l'omniprésence de ces symboles dans l'espace du cirque, ça devient de plus en plus troublant. Notamment, on trace sur le sol un certain nombre de symboles que l'on efface. La piste au centre l'aire de jeu centrale, c'est ça. C'est-à-dire que les pieds des chevaux, des acrobates, tracent un certain nombre de symboles qui s'effacent au fur et à mesure. Il y a cette sensation d'éphémère. En même temps aussi, et c'est là où ça devient de plus en plus évident, si on superpose le plan d'un temple au plan d'une salle de cirque, on a la sensation qu'on en est très proche. La façon dont on se déplace dans un temple maçonnique, c'est le même sens que sur une piste de cirque. Et c'est toujours le même. Que la stigmatisation d'une entrée principale pour les artistes évoque les deux colonnes, les colonnes du temple. Que le principe de la barrière, c'est-à-dire qui consiste pour un artiste qui a connu les lumières, etc., sur la piste, vient devant le rideau pour aider les autres artistes en leur passant les accessoires, en jouant une sorte de rôle d'intermédiaire. On est très, très étonné quand on sait comment ça se passe dans une loge, c'est-à-dire que quand le vénérable de la loge descend de sa charge, il devient le frère qui garde la porte du temple. C'est-à-dire qu'il devient, il se met au service des autres, après les avoir guidés. Et que la barrière s'appelle le service de maître. Donc là aussi, il y a quelque chose d'assez étonnant. Que j'ai trouvé la trace dans un recueil d'une parade maçonnique équestre faite par un écuyer de cirque à Vienne à la fin du XVIIIe siècle, donc on est tout à fait dans la période, et que cette parade ayant été particulièrement bien reçue, on a demandé à cet écuyer ce qu'il souhaitait comme récompense, et il a demandé l'initiation de son fils. Et donc on a procédé à l'initiation de son fils, à cheval, dans le cirque, transformé en temple. Donc là, d'un seul coup, ça n'est plus simplement un jeu de superposition, mais on perçoit en tous les cas que l'espace pourrait être commun. Évidemment, les temples maçonniques ne sont pas des cirques, et les cirques ne sont pas des temples maçonniques, mais il y a quelque chose là de tout à fait troublant. Et cette idée de société secrète qui se rassemble pour se protéger, l'idée de l'union fait la force, par exemple, qui est une maxime maçonnique, où rassembler ce qui est épars, ça prend tout son sens dans un cirque. Le spectacle de cirque est par essence hétérogène. Hein, ce sont des formes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. L'acrobate, le jongleur, le danseur de corde, etc. sont des disciplines qui ont une existence qui est auparavant tout à fait autonome. Elles sont rassemblées sur une piste. Elles deviennent des symboles de cirque. Hein, elles sont presque privées de leur identité initiale. Et donc on rassemble ce qui est épars sur la piste du cirque pour lui donner un autre sens. Et donc là aussi, il y a quelque chose de tout à fait étonnant. Alors, on pense à Franconi, on pense à Hughes, on pense à Astley, on pense à Dibdin, on pense à Ricketts. Tous ces gens-là étaient francs-maçons. Et ce sont tous les fondateurs ou les précurseurs, les initiateurs, le nom que l'on veut, du cirque. L'idée qu'on rentre dans une salle de cirque, on passe d'abord par un sas en général obscur avant d'arriver à la lumière de la salle, par exemple, etc., etc., etc. Je pense qu'on pourrait multiplier. Donc il y a là quelque chose de très fort dans un lien ésotérique, dans une résonance ésotérique en tous les cas, dans la formulation du spectacle de cirque, qui lui fait échapper à sa caractérisation de pur divertissement. Et ça me semble très très important. Donc à la fois cette utilisation d'objets quotidiens dans la liturgie, dans une liturgie taoïste, pourquoi pas, et ça nous renvoie effectivement à des formes tout à fait essentielles dans la vie humaine. C'est quand vous allusions tout à l'heure à la roue qui va effectivement avoir une incidence, puisque la piste elle-même est une roue, et cette roue, à mon sens, elle puise son origine dans le feu. D'ailleurs, le feu autour duquel on se rassemble, le cercle initial, qui va permettre ensuite de tracer cet espace sacré au centre d'un espace, lui, plus élargi, pour une communauté qui n'est plus le groupe de chasseurs ou de cueilleurs, mais qui devient un public qui accepte l'idée d'entrer et de recevoir quelque chose qu'on lui donne en partage. Et là, il y a quelque chose, moi, qui me semble tout à fait évident, essentiel.
Magie noire, film de Jean Rouche, 1945.
On va, comme l'on fait tout au long de siècles sans histoire, des générations sans nombre, danser religieusement la danse des génies, qu'on nomme aussi la danse de la possession. Le premier mouvement entraîne d'abord quelques danseurs. C'est le tour de la concession, qui est comme la simple promenade de gens qui attendent. Qui attendent quoi? Et puis, le rythme s'accélère, et d'autres entrent dans la ronde sacrée. Et le second mouvement, qui se nomme du nom même de son geste principal, secouer la tête, commence à apporter aux danseurs cette sorte d'étourdissement cérébral et physique qui tout à l'heure se transformera en extase. Et le rythme s'accélère encore. Et le troisième mouvement commence à libérer de leur pesanteur physique et de leur personnalité quotidienne les danseurs qui entrent dans une sorte de soûlerie, de bruit et de mouvement. Chacun, dans le rythme général, commence à se sentir pénétré d'une présence étrange. C'est que l'Afrique noire pénètre par ses racines dans ce domaine mystérieux des forces inconnues, où les dieux et les génies ont leur place dans la vie des hommes. Et voici que le rythme change, et que chaque minute et chaque geste appelle au milieu de ces êtres vivants d'autres êtres, impalpables ceux-là, mais si terribles et si puissants que toute la vie des hommes n'est qu'un grain de sable dans leurs mains, une herbe folle sous leur souffle. Et voici qu'une femme s'est arrêtée. Elle oscille, debout, l'œil égaré, respire avec peine car la venue des esprits ne se fait jamais sans souffrance, cherche de ses yeux fixes, à travers les visages, l'ombre diffuse du génie obscur qui l'a tout à l'heure touché à l'épaule et qui maintenant passe en elle. Elle a jeté son châle. La sorte d'hystérie qui l'a saisie la gagne peu à peu tout entière. Elle hume à travers le vent le fumet de mystère auquel nos sens de civilisés sont devenus réfractaires. Une présence étrangère s'est installée en elle. Une présence mystérieuse, maintenant incarnée dans cette pauvre femme de tout à l'heure, dont le langage même est changé. Et tout le monde a reconnu la présence incarnée. C'est celui qu'on invoquait, celui qu'on glorifiait, celui qui a accordé à son peuple la mort de l'hippopotame, celui qui demain, s'il le veut, accordera encore des amas de bonne nourriture. Dico, le génie du fleuve. Dico est là. Dico est là. Et autour de la possédée, l'hystérie devient collective. D'autres génies sont survenus, appelés par le son des calebasses et les incantations. Ils sont là, et ils veulent eux aussi leur part de la vie des hommes. Sous le regard de l'halluciné, un homme se convulse. Un autre tombe à la renverse. Et un autre commence à saliver, la bouche pleine de mousse blanchâtre, comme atteint d'épilepsie. Les génies sont entrés dans les hommes, ou plutôt ce ne sont plus des hommes qui dansent, parlent et agissent, mais les génies même à qui ils donnent asile. Celui-ci, sans crainte du feu, passe une torche sur sa peau. Celui-là continue à sauter en arrière, sans fatigue et sans fin. Le saliveur bave impossiblement. Et les hommes ne sont plus que de pauvres choses aux mains de puissances inconnues qui les abandonneront dans quelques heures, pareil à des cadavres.
Moi, je pense que le lien commun, pour l'anecdote, sous la dynastie Ming, les acrobates chinois se sont rassemblés en société secrète aussi pour justement se fédérer, être plus forts et en même temps échapper aussi à un pouvoir qui devenait de plus en plus agressif vis-à-vis d'eux. Donc ça c'est une sorte d'écho qu'on peut trouver effectivement dans un autre territoire, et la dynastie Ming ça correspond à peu près au XIVe siècle pour nous. Donc il y a quelque chose, c'est une sorte d'anticipation en fait de ce lien ésotérique qu'on trouvera avec le cirque moderne au XVIIIe. Je pense que le point commun, et pour le cirque, c'est d'une évidence, c'est aveuglant, c'est l'initiation. Puisque l'initiation à tous les niveaux d'ailleurs, puisqu'effectivement Alexis Grus l'incarne tout à fait magnifiquement, c'est-à-dire que le spectateur qui va venir voir son spectacle, il a, entre guillemets, besoin d'être initié, parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'il ne comprendra pas sinon. Et en même temps aussi, il se donne à voir pour le plus grand nombre. Donc il y a quelque chose là, une superposition d'état en tous les cas, qui, moi, à mon avis, s'accorde bien au cirque. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut le recevoir comme un spectacle, avec des paillettes, avec des choses assez superficielles. Le cirque peut être ça. Il l'est très souvent. Et en même temps, il y a une sorte de fondement qui fait que, d'une part, pour être acrobate, il faut passer par un certain nombre de rites initiatiques, parce que ça ne s'improvise pas, et que ce sont des étapes souvent extrêmement douloureuses. Hein, c'est l'axiome de l'acrobate, c'est « je souffre, donc je suis ». Donc un acrobate qui ne souffre pas, il est mort. Ça semble évident. Donc il y a un certain nombre un processus en tous les cas, qui va permettre à un corps malhabile de devenir une sorte de quasi-perfection, qui va être capable de repousser des limites, d'être au-delà de ce qu'est la nature pour le commun des mortels. Donc l'initiation, elle passe de façon tout à fait intérieure, hein, c'est-à-dire qu'il y a cette logique d'apprentissage, de découverte, qui va permettre d'accéder à un état tout à fait supérieur et que peu pourront atteindre. Et c'est là où on est transporté, enfin on est transcendé quand un artiste de cirque est au-delà des limites, au-delà, mais des limites convenues par rapport à lui, par rapport aux autres. L'initiation du spectateur, parce que c'est évident que le cirque au départ, forme exclusivement équestre, ne se reçoit pas n'importe comment, n'importe où, par n'importe qui. Donc il y a aussi cette qualité du spectateur initié. Et cette idée aussi que la représentation finalement obéit à une véritable logique, à un ordre, qu'elle ne se donne pas à voir n'importe comment non plus. Et je crois que là, il y a un point commun évident. C'est-à-dire que c'est à la fois ceux qui assistent, ceux qui reçoivent et ceux qui donnent sont reliés par un principe initiatique qui parfois leur échappe complètement. Moi, je suis toujours fasciné de voir des cirques s'installer dans un village et tracer un cercle et rassembler des gens autour sans avoir conscience de ce qu'ils sont en train de faire, en fait.
Claude Lévi-Strauss, 1976.
Il y a très certainement des moments capitaux du rituel de l'initiation des hommes qui, chez les Hopi, se produit une fois tous les 4 ans, ils s'appellent le Wawachim, et qui n'ont jamais été pénétrés par des ethnologues professionnels. Nous soupçonnons bien pourquoi, sans le savoir avec précision.
Pourquoi ?
Parce qu'il semble qu'au cours d'une certaine nuit de ce rituel, on se livre à des pratiques qui sont très horribles aux yeux des indigènes même, comme des exhumations de cadavres dans le cimetière proche et leur présentation très brutale, très dramatique, je dirais presque très théâtrale, aux jeunes initiés pour les mettre en présence de la mort et les accoutumer à la mort. Or, non seulement les Indiens savent bien que les missionnaires désapprouveraient de telles pratiques, mais même de leur point de vue, ce sont là des actes très solennels et qui doivent rester mystérieux.
Les premiers forains sont liés aux constructeurs de cathédrales, aux alchimistes, aux savoirs ésotériques. Mais c'est dès l'aube de l'humanité et l'univers des grottes pariétales que les mythes du cercle apparaissent. Le bestiaire préhistorique contient déjà tout ce que la piste va produire. Le rapport à l'animalité, à la chasse, à l'effroi, les hybrides, homme, mi-bête, mi-divinité chamanique, à la dévoration, au vide du gouffre. Les grands symboles de l'inconscient sont déjà présents et vont perpétuer leurs arcanes jusque sur les pistes contemporaines. Claude Lévi-Strauss ou André Leroy-Gourhan ont montré par l'ethnologie l'entrelacement des rites funéraires avec un vaste répertoire de manifestations spectaculaires, initiatiques, symboliques.
L'idée de la grotte comme une matrice, avec le feu au centre qui projette des ombres sur les parois et qui raconte déjà des histoires, ça nous renvoie évidemment à la piste, au chapiteau ou même au cirque stable où il n'y a pas de lumière du tout à l'intérieur de la salle et où on est dans un espace totalement hors du monde, hors du temps, féminin et masculin. Il y a une véritable dualité des symboles. Ça nous renvoie d'ailleurs, je l'ai oublié, occulté, mais c'est directement lié à ce qu'on est en train d'expliquer. C'est-à-dire que le symbole masculin est un cône, le symbole féminin est une forme en V, et que si l'on superpose les deux, on a le symbole maçonnique de l'équerre et du compas. Et que cette idée du cône, c'est la toiture, la toile ou la coupole, et que l'idée de du V, de la matrice, c'est la piste. C'est la piste en creux, hein, et le spectateur au-dessus. Donc là, il y a une espèce de traduction, d'incarnation au-delà du temps et au-delà de simplement un joli chapiteau coloré sur un champ. Je crois qu'on est au-delà. Le rapport de la main me semble essentiel aussi, puisque c'est l'incarnation même de la transmission du savoir au cirque, c'est-à-dire que tout passe par la main. La main qui touche, la main qui caresse, la main qui tient, la main qui lâche, la main qui rattrape. Il y a quelque chose là de tout à fait évident. Donc avoir choisi la main comme quelque chose, comme une sorte de symbole, effectivement, de représentation de l'humain sous la forme de contre-type dans les grottes, me semble une espèce de premier point d'ancrage, en tous les cas, entre ces deux univers.
André Leroy-Gourhan, 1960.
L'art débute vers 30 000 à peu près avant notre ère. Et on possède de cette époque, bien datée, des plaques ou des blocs de calcaire sur lesquels ont été représentés des animaux. Des animaux et autre chose. Et autre chose qui sont tout simplement des figurations de symboles sexuels féminins, comme celle-ci par exemple. Et le premier contact qu'on prenne avec la métaphysique du paléolithique à l'orignacien, c'est-à-dire vers 30 000 avant notre ère, c'est celui de blocs sur lesquels sont représentés des animaux et des symboles sexuels. Or, plus tard, quand on est dans la période où les signes sont des rectangles ou des triangles, ils occupent la même position par rapport aux animaux qu'occupaient les symboles sexuels. De sorte qu'on a, si on adopte cette vision, un double jeu de figures dans la caverne. D'une part, les deux animaux bison-cheval, le troisième animal qui est le bouquetin, le cerf ou le mammouth. Ceci pour une première série. Et une deuxième série, les signes pleins, symboles d'origine féminine apparemment, et les signes minces. Découvrir ça, c'est découvrir une banalité en réalité, parce qu'il n'est pas de religion dans laquelle le jeu du masculin et du féminin, ou du mâle ou du femelle, ou l'opposition entre le blanc et le noir dans un certain nombre de religions, il n'en est pas, où ce type de symbolique, de structure symbolique, n'existe pas, et ça se trouve partout. Et retrouver ça dans le paléolithique, c'est simplement démontrer que nos très très lointains ancêtres avaient une vision humaine de la réalité.
Pascal Jacob.
La traduction des animaux, on semble s'accorder sur le fait que ce sont des tableaux de chasse, et qu'en fait, les animaux ne courent pas, mais qu'ils sont morts. Et qu'ils sont couchés, en fait, et qu'on les a représentés couchés sur les parois des tombes, les parois des grottes, enfin, qui sont peut-être aussi des tombes, dans une certaine mesure. Donc, le bestiaire tel qu'il est défini, et c'est une vraie question, en fait, parce qu'il est très rarement en rapport avec l'homme. La plupart du temps, ce sont des animaux qui sont totalement déconnectés d'une réalité humaine. Moi, il y a quelque chose qui me questionne depuis longtemps, c'est l'absence de représentation, notamment dans des peintures pariétales en Afrique. Il n'y a jamais de représentation acrobatique. On ne trouve pas. On trouve des animaux, on trouve des figures humaines parfois, parcellaires avec la main, quelquefois des silhouettes extrêmement simples, mais qui semblent tenir debout, mais qui n'accomplissent pas de choses particulièrement décalées par rapport à celui qui marche. Et ça, pour moi, c'est un vrai questionnement, parce qu'effectivement, les Hopis pratiquent un certain nombre de rites qui se rattachent à l'acrobatie, mais on a aussi les âniers du Cameroun, par exemple, qui, dans un espace circulaire délimité par une poussière de kaolin, et un espace circulaire qui, très curieusement, n'est pas si loin des 13 mètres de la piste de cirque, comme si c'était une dimension tout à fait quasi universelle. Et ces ânis pratiquent des formes acrobatiques qui sont une sorte de moment de transcendance, des culbutes qui provoquent les rires. Ils sont capables de manipulation. C'est dans un temps donné, avec une communauté rassemblée autour. Donc il y a là aussi quelque chose de tout à fait lié et tout à fait troublant qui est à la croisée de la cérémonie et du spectacle.
Rituel de l'île de Java, 1952.
Les hommes sont possédés. Ils sont des sangliers et vont se comporter pendant plusieurs heures comme des sangliers, pousser les mêmes cris terribles, aller dévaster un champ de manioc, déterrer des plants et en dévorer les racines à même la terre. Au départ, c'est le chaman qui décide tout, qui dirige tout. Il les place comme sur un rail, puis il les laisse agir. Ces hommes n'ont plus aucune conscience humaine, ils ne se souviendront de rien une fois revenus à leur état normal. Pourtant, leur subconscient sera marqué pour toujours. Il les dirige vers un champ de manioc.
Un objet de pouvoir dans la Chine antique, c'est le ding, qui est une sorte de vase de réceptacle en cuivre tripode avec deux poignées. Et ce réceptacle est à la fois un symbole de pouvoir pour celui qui le possède, c'est aussi le lieu où on conserve de la nourriture, donc une garantie de survie pour le groupe, et en même temps aussi c'est un réceptacle qui va servir pour l'invocation des esprits et la protection des défunts du groupe, des anciens. Le ding, quand on fait un petit effort, on ferme les yeux, on fait un effort d'imagination. La dimension tripode avec les deux anses représentent les jambes d'un acrobate qui se tient sur les mains. Un des trois pieds représente sa tête et les deux autres représentent ses mains. Et donc on a un acrobate qui fait une sorte de poirier ou de figure renversée et le ding incarne ça. Et aujourd'hui, dans des cérémonies, souvent des cérémonies familiales mais élargies, eh bien, on invite des acrobates à accomplir certaines figures et notamment cette posture finalement assez simple que beaucoup d'enfants font dans les cours d'école et qui est en fait la réincarnation du ding. Et donc qui sert à la fois de lien symbolique avec ce culte des ancêtres et en même temps aussi qui est tout à fait rigolo à regarder, enfin, qui a un côté spectaculaire et dynamique.
L'homme que nous avons vu tout à l'heure et qui était coiffé d'une sorte de masque d'oiseau représentait en cette occasion une grande divinité du panthéon Haïda qui est le corbeau.
Claude Lévi-Strauss.
Le corbeau
1985.
Qui appartient à un temps, le temps du mythe, où les humains et les animaux n'étaient pas des espèces ou des familles réellement distinctes et pouvaient à volonté assumer une apparence humaine ou leur apparence animale. Ce que les masques de cette région, et particulièrement celui-là si je l'ai bien regardé, expriment merveilleusement, puisque ce sont des masques à voler,
quand les deux volets sont refermés, et quelquefois il y a 3, 4, 5, 6 volets, quand les volets sont refermés, nous apercevons l'appartenance oiseau, et quand ils s'ouvrent, nous voyons par derrière le visage humain de cette divinité qui est à la fois le dernier des insoumis, le dernier représentant du monde du mythe où tout était possible, et puis, comme les choses sont en train de changer, comme grâce à lui, les hommes font leur apparition sur la terre, qui est le premier des législateurs et à partir duquel il ne sera plus possible de faire n'importe quoi.
La notion principale, celle à laquelle on faisait allusion tout à l'heure, c'est celle de la main. La notion du corps, qui est à la fois un corps métaphorique, un corps réceptacle et en même temps aussi un objet de virtuosité et qu'il appartient à tous. Le point commun en fait de ces formes-là, c'est qu'elles sont humaines et que l'humain de ce point de vue-là n'a aucune frontière. Que exprimer un culte aux ancêtres, des liens aux esprits, quand on est au cœur d'une savane, dans un désert ou dans une jungle, plutôt que d'aller chercher des artifices supplémentaires, on va utiliser ce dont on dispose, c'est-à-dire le corps. Et que je crois que le point commun, on n'expliquera pas, évidemment, pourquoi il y a des formes aussi similaires aux quatre coins du monde, alors que des populations n'ont aucune raison de s'être rencontrées. Mais peut-être qu'un jour, on s'en rendra compte que c'est faux, que les Indiens qui ont colonisé l'Amérique du Nord sont arrivés par le détroit de Bering, qui venait donc de l'Asie. Et donc, pourquoi ne pas imaginer, finalement, une sorte de langage quasi universel? L'acrobatie, c'est ça. Et je crois que la raison d'être, elle est là, c'est-à-dire elle est dans la simplicité de l'artifice initial, qui est le corps humain, et que ça, on a tous en partage. Et que de ce point de vue-là, il y a une véritable égalité, à la fois dans l'écriture et dans une conception initiale. Après, l'évolution des sociétés et l'évolution des cultures va faire que l'on va raffiner ou pas une pratique, que l'on va l'utiliser, qu'elle va tomber en désuétude, que l'on va la magnifier, la transcender, ce que vont faire les Chinois notamment, et ce que ne vont pas faire les Africains par exemple, ou très peu les Indiens des plaines ou les Indiens du Nord-Ouest, et que les Occidentaux vont s'approprier. Mais je crois que le point commun, il est là, quoi. Il est dans cette célébration de l'humain, et ça donne un caractère évidemment beaucoup plus fort au spectacle de cirque. On parle depuis tout à l'heure d'une forme divertissante, mais je crois qu'elle est ça, mais elle est aussi et infiniment plus.
Quelles sont les principales difficultés auxquelles se heurte la direction d'un chapiteau en France?
La première difficulté, c'est que beaucoup de Français ont honte d'avouer qu'ils vont assister à un spectacle de cirque. Parce que certains pensent que ce n'est pas un spectacle sérieux et que c'est un spectacle pour les enfants.
Joseph Bouglione, 1967.
Comme les virtuoses de la musique, de la danse, les artistes de cirque ne peuvent absolument pas tricher.
Les fondamentaux du cirque, le cercle, le numéro, l'objet, le corps, l'animal, jouent et se structurent autour de ces transes, ces cycles vitaux, mais en les transformant en un art de la mutation, de la communication au sens de la contamination de l'étranger, ainsi que le film Ingmar Bergman dans La nuit des forains, ou du sacrifice pour Ophuls dans Lola Montes. Le couteau lancé, le sabre, remplace le chasseur, le magicien et l'hypnose, la transe qui fondait les communautés primitives. Les sociétés secrètes ont permis au cirque, au fil du temps, de conserver au présent ce fond magique. Avec l'arrivée de la technique, des lumières, de la mécanisation de l'humain, la piste s'adapte à toutes les innovations de la modernité, au risque de perdre sa source rituelle. Mais de nouveaux mythes apparaissent. Le dressage des fauves par la jungle pacifiée, image du paradis, de l'arche de Noé, ou les risques du surhomme nietzschéen.
Le 18e voit l'accessibilité de plus en plus grande du cheval, qui n'est plus simplement l'apanage des armées, mais qui devient disponible parce qu'effectivement, un certain nombre d'unités militaires se débarrassent d'un surplus de chevaux. Donc des particuliers achètent des chevaux, mais aussi évidemment des acrobates, des saltimbanques. Et là, il y a un phénomène de mutation étonnant, c'est-à-dire que le cheval devient un moteur, c'est à la fois un moteur de civilisation, mais c'est un moteur esthétique. Et donc d'un seul coup, tout est prêt finalement pour l'avènement d'un spectacle équestre et acrobatique dans une aire de jeu circulaire qui rassemble un temps de l'humanité qu'on appelle les qui est considéré comme les Lumières, le siècle de la connaissance, du tout voir, du tout comprendre. Et comme par hasard, dans un cercle, on va proposer des fragments du monde, donc on va montrer des choses, qu'on va les rendre accessibles au plus grand nombre. Donc on perd peut-être la notion de sacré telle qu'elle était définie, évidemment, beaucoup plus en amont, mais on rend intelligible un certain nombre de formes, et la césure, elle est là, en fait. Elle est dans cette nouvelle accessibilité des formes et des savoirs, dans la démonstration, pas forcément dans l'apprentissage, mais dans la démonstration. Le cheval est un élément de civilisation. Ça a permis à des sociétés de passer d'un état à un autre, notamment pour la conquête. Donc le cirque, en s'appropriant le cheval, s'approprie un peu de cet imaginaire de la conquête. Je pense que si le cirque cultive autant l'image du héros, du surhomme, et en même temps aussi du monstre et de la différence, et le culte de la différence au cirque, il est évident. C'est relié à ça. Ça semble évident.
He is English. He is 21 years of age. His name is John Merrick. He's quite seriously deformed. Don't be frightened. He won't hurt you.
Do not own this man!
I should very much like to meet this gentleman.
Good day, Mr. Merrick.
People are frightened by what they don't understand. I am not an animal! I am a human being!
My life is full. Could I know that I'm loved.
On the margins of the film world, making low-budget pictures financed by odd jobs and plumbing. But his talent for creating dark and beautiful worlds on screen had not gone unnoticed, and he soon found himself in London, directing a film that was perfect for him, The Elephant Man.
À partir du moment où le cirque perd la notion de sacré, il s'abandonne à la modernité, avec l'avènement du cirque équestre, c'est tout à fait clair. C'est-à-dire qu'on se déconnecte de la raison d'être du geste acrobatique pour lui donner une autre identité, une autre dimension. C'est une manière de larguer les amarres, en fait. Donc je crois que le cirque, à partir de ce moment-là, il va intégrer quelque chose qui va, c'est presque un code génétique aujourd'hui, c'est cette capacité de s'intégrer dans les sociétés qui l'accueillent. C'est-à-dire que dès que le cirque devient moderne, en opposition au cirque antique, il n'a qu'une seule obsession, c'est de s'impliquer dans la société tout en étant marginal. C'est-à-dire que c'est un paradoxe, le cirque, par son itinérance, alors c'est vrai que dans un premier temps, on va d'abord construire des bâtiments, des lieux fixes qui permettent de s'ancrer dans la cité. Donc c'est toujours cette idée d'être là au même titre qu'un théâtre ou qu'une poste. Enfin, je l'exagère, mais c'est ça la caricature. Le cirque devient un artifice, un élément du paysage urbain. Et à l'intérieur de cet élément, il donne des spectacles qui finalement sont marqués par les sociétés qui entourent ce bâtiment. Et donc ça explique, de façon, à mon avis, tout à fait transparente, cette obsession du cirque à s'approprier le vélo, à s'approprier l'électricité, l'éclairage au gaz d'abord et l'éclairage électrique ensuite, à s'approprier tout ce qui peut faire du sens sur la piste et qui se vit comme un écho de la modernité du monde. Et le développement du colonialisme et l'avènement de l'accessibilité des animaux sauvages à la fin du 19e, n'a pas d'autre explication. C'est-à-dire qu'il y a une curiosité évidente pour le monde de découvrir, de comprendre comment ça marche et de voir des fragments de ce monde merveilleux, etc. Donc c'est le cirque est un méga cabinet de curiosité. C'est-à-dire qu'il va devenir le réceptacle, la toile sur laquelle va s'inscrire la connaissance du monde de façon extrêmement superficielle, de façon extrêmement populaire. Mais on va voir sur la piste du cirque des animaux, on va voir des hommes, des femmes issus de peuples lointains qui ont parfois des savoir-faire acrobatiques ou équestres. Ça va être une grande tendance en Allemagne, notamment au début du XXe siècle, où on va proposer des spectacles avec des numéros de cavaliers venus des steppes d'Asie centrale, des acrobates, des contorsionnistes venus de l'Inde, du Sri Lanka, etc., des Africains. Le cirque Hagenbeck, notamment, aura des Somaliens, des cavaliers et des hommes et des femmes de Somalie dans ces spectacles et dans des exhibitions parallèles à côté. Donc il y a cette avidité nouvelle parce que l'on va transformer en fait la notion de sacré qui a prévalu au développement des formes depuis les dynasties archaïques jusqu'à ce 18e qui est en fait ce moment du basculement, mais c'est le basculement de toute une société. La Révolution française est un des points culminants, un des phénomènes de science de ce basculement, et le cirque va être emporté. Moi, je pense pas malgré lui, parce que je pense qu'il y avait quelque chose de tout à fait conscient là-dedans, mais dans ce désir de coller à la réalité du monde, c'est-à-dire d'être tout le temps en phase avec les découvertes, avec l'évolution d'une société, l'avancement, etc. On va avoir des charpentes de cirque en métal, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est réservé à de rares bâtiments dans un premier temps, et le cirque va être parmi ceux-là, tout de suite. Parce que d'un seul coup, on innove et qu'on s'approprie quelque chose qui marque la puissance de l'homme, de son empreinte sur la nature. Le cirque, à la fin du 18e et au début du 19e, notamment avec les prémices du dressage, est marqué par la civilisation judéo-chrétienne. C'est-à-dire que les premiers dompteurs sont en toge et ils entrent dans une cage et ils réinventent l'Éden. C'est-à-dire qu'ils sont capables de maîtriser la sauvagerie brute en faisant entrer un agneau au milieu des lions ou un enfant quand on le tolère.
C'est une image du paradis.
C'est une image du paradis. Il y a des gravures, il y a des estampes, il y a des affiches où le dompteur, c'est un deus ex machina, avec entouré d'animaux qui s'entendent bien, évidemment, ce qui est complètement illusoire, mais avec un décor de forêt idéalisé. Et c'est le Denis Rousseau, hein, mais sans le sang et sans la mort. Même si elles sont omniprésentes et qu'elles se manifestent de temps en temps. Mais il y a cette notion-là. Et il y a quelque chose de fort dans cette idée de la domination de l'homme sur la nature qui trouve un écho étonnant au cirque, notamment avec le dompteur, qui c'est inimaginable jusque-là. Là, on peut résumer le dompteur moderne à partir du 19e siècle, à partir du tout début et jusqu'à la fin du 19e, jusqu'à aujourd'hui, en fait. C'est la réincarnation vivante d'un martyr chrétien, mais qui a vaincu. C'est-à-dire qu'il est, ça n'est plus celui qui est dans l'arène et qui est dévoré, c'est celui qui est dans l'arène, mais qui, à la limite, dévore. Qu'il est plus fort que l'animal face à lui, c'est un super Daniel, c'est le mythe de tous ceux qui se sont retrouvés confrontés à des fauves et qui évidemment se sont sauvés en faisant appel à Dieu. Et le dompteur, finalement, lui, se sauve en faisant appel à sa force, à son pouvoir, à son magnétisme peut-être. On a beaucoup écrit là-dessus. Il y a d'ailleurs des dompteurs ou des dresseurs qui ont utilisé l'hypnose, comme Coringa avec les crocodiles ou Blackaman avec les fauves. Donc il y a quelque chose là de très très fort dans ce renversement des codes civilisateurs. Je crois que le dressage est issu de ça, quoi, est issu de cette vision très très judéo-chrétienne de la domination. Croissez, multipliez, soumettez la terre, etc. Et le dressage est une émanation de ça. En fait, c'est une façon pour l'homme de se rassurer aussi en étant plus fort qu'une nature hostile et que par définition il n'a que de cesse que de dominer, en fait.
Autant vous le dire dès l'abord, il ne s'agit pas d'une spectaculaire épreuve de force à grand claquement de fouet entre l'homo sapiens et le roi des animaux. Il n'y aura pas de sang à la une. Non, il s'agit de Jim Frey, qui abandonna un jour Besançon et la carrière paternelle d'architecte pour l'Afrique et la psychologie appliquée aux grands fauves avec les résultats que l'on voit. Et l'exploit dans les coulisses duquel nous sommes entrés est tout de douceur, de finesse, de compréhension. De risques aussi acceptés à nouveau chaque jour dans la cage et chaque fois renouvelés, compte tenu de ce fait essentiel qu'il n'y a pas le lion, la lionne ou le tigre, mais des lions, des lionnes et des tigres, les uns doux, les autres méchants, et parmi eux des intelligents et des imbéciles, ces derniers les plus dangereux, comme chez les hommes. Le premier acte du dressage, l'envoi seul dans la cage ronde. Là, laisser, comme on dit, faire les grilles, récompenser et recommencer. Et puis un jour, c'est la première entrée de cage. Cette fois, c'est de l'homme qu'il s'agit. Sans armes, sans fouet, sans même la vieille chaise pour parer les coups de griffe. Seule la récompense toujours prête.
Gypsy, alors, gypsy.
Et aussi la voix.
Gypsy en place.
Bah, c'est brave fils. Vois pas.
Moi, je vois. Pas manger les mains à son papa, ça te fait pas, ça, voyons. Votan. Viens, mon fils.
Attention, Votan. Votan, allez. Votan, allez. Oh. Hop. Fatou, allez. Oh. Hop. Fatou. Place! Allons, place! Fatou, bravo! Oh, bravo!
Attention! Ne jamais barrer le chemin d'un fauve qui, ici, dans la cage, suit son parcours comme dans la jungle, il suivait sa piste. Et on sait par oui dire au moins ce qu'il advient généralement de l'homme qui s'est heurté au détour d'un chemin à quelques lions ou tigres. Toujours réservé à chacun sa place, toujours la même, et dont il se sent propriétaire et gardien au même titre que de sa tanière. Alors on peut passer aux accessoires de plus en plus complexes. Une bête placée étant déjà à demi dressée. Les sauts, puis la pyramide, viendront plus ou moins vite, selon la bonne volonté et l'intelligence, au rythme des 8 à 10 heures quotidiennement passées en cage par le dresseur, qui doit y porter toujours le numéro 1 de la seule bête verticale de la création. Détail, quoi qu'il arrive, ne jamais tomber sous peine de devenir immédiatement une bête horizontale comme les autres et la moins forte de toutes. Et à force de patience et d'amitié au prix de quelques sévères leçons, Jim Frey en est à sa 21e blessure, on obtient un numéro unique. Fatou cabré, seul, au sol, sans le tabouret habituellement indispensable à ces fauves à longue queue pour réaliser cet exercice. Et lorsqu'on est devenu ami véritable, qu'on se comprend bien, on peut espérer faire accepter même l'insolite, le bruit et le mouvement inhabituel, ceux-là même qui déclenchent normalement la peur et l'attaque. Et la danse fétichiste de Katerina Carte est précisément ce dangereux insolite. Bien savoir aussi que le fauve sait discerner d'emblée le vrai du faux dans l'attitude humaine et qu'il perçoit au flair l'émotion et la peur qui changent l'odeur de la peau de l'homme. Tenir compte encore de la mauvaise humeur qui doit être incessamment contenue et lorsqu'on a finalement maîtrisé sa propre peur, que de part et d'autre des tabourets de la pyramide on a bien pris la mesure, alors on a un numéro de plus au programme.
Il y a un phénomène d'abandon, en tous les cas, qui est tout à fait notable. Si on imagine que les premiers acrobates n'avaient pas besoin d'animaux. Les premiers acrobates étaient eux-mêmes des animaux. Ils incarnaient des formes qui pouvaient rappeler, en tous les cas, la capacité de l'animal à exprimer la force, la virtuosité, etc., l'agilité. Je pense qu'il y a un abandon véritable à partir du 18e, parce que la société devient beaucoup plus... intellectuelle peut-être, elle rationalise en tous les cas. Et donc le cirque, en fait, en se développant, c'est du corps. Je crois très fortement à ça. Et à partir du moment où il abandonne une dimension sacrée, on pourrait résumer que tout est permis. Et à partir de là, le cirque se fonde véritablement en chambre d'écho du monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la piste devient une sorte de d'écrin, mais aussi en même temps un espace du tout voir, du tout comprendre, le cirque va multiplier les connexions avec la réalité d'un monde en marche en permanence. Alors c'est vrai que c'est très facile pour lui d'accumuler les nouveautés, puisque à partir du XVIIIe siècle, on ne cesse de découvrir, en fait. On ne cesse de renverser des barrières, d'ouvrir des portes. Donc le cirque assimile à toute vitesse, au fur et à mesure. Donc l'idée de présenter des animaux, elle vient de là, elle vient de rendre compte de la diversité du vivant. Et le cirque, avec le développement de formes acrobatiques et notamment le trapèze volant à partir de 1859, d'un certain nombre de qualités acrobatiques de plus en plus poussées, entre dans une logique de perfection. C'est le sens même de la transmission, c'est-à-dire que jusque-là, on imitait les animaux pour réussir quelque chose, pour convaincre. Maintenant, on n'a plus la nécessité de convaincre, on est simplement dans une espèce de phénomène de dépassement. Hein, c'est le surhomme de Nietzsche, par exemple, qui est le cirque et l'espace, le culte du héros magnifié. Mais on le sait depuis toujours, il faut un contrepoint à la perfection. Et l'animal a une certaine beauté, hein, le fauve notamment. Alors c'est vrai qu'on va s'amuser, on va trouver un premier contrepoint avec les animaux domestiques, avec les chiens, avec les cochons, avec les chèvres, etc. Mais on va aussi se mettre en quête aussi d'un contrepoint humain, à la perfection surhumaine de l'acrobate. Et le cirque va flirter, alors peu en fait en Europe, avec la monstruosité, ou le phénomène, ou les prodiges de la nature, ou les curiosités telles qu'on va les définir selon les moments. Mais le cirque ne sera jamais très très loin de cette dimension du phénomène, parce que l'idée est évidemment de créer un contre-type en exhibant en parallèle, en mettant en parallèle un acrobate capable de se le jeter dans le vide et de rattraper une barre de trapèze simplement par sa puissance, sa force et sa capacité à vaincre le vide, et en même temps un lilliputien, un géant, une femme à barbe qui sont des contrepoints naturels, mais qui en même temps aussi sont relégués très très loin par cette perfection au-dessus d'eux qui va créer cette ambiguïté de lecture du spectacle de cirque à partir du 19e siècle et jusqu'à aujourd'hui.
Tous vos mouvements à cette extrême hauteur, et c'est la chute, la mort. Marine, du journaliste Dujarrier, son destin l'allège vers le journaliste Bobanon, dont le journal a un tirage plus élevé. Le grand et célèbre Richard Wagner, le très grand, le très célèbre Frédéric Chopin tombe à ses genoux. Plus haut de là, plus haut, avec danse et musique, dans la passe de l'art à la politique.
Mesdames et messieurs, un des risques de notre métier. Le comte Lichtenfeld, régnant du chemin de fer sur 78 000 habitants, lui verse 60 ducats d'argent par mois. Plus haut, Lola, plus haut. Ah, le grand Hubert, 500 ducats d'or revenus mensuels. Toujours plus haut, Lola, plus haut. Lola arrive au sommet.
La quête de dépassement permanent du cirque, elle est nourrie par ça en fait. Elle est dans cette espèce de paranormalité du corps acrobatique qui veut que le spectateur soit absolument béat devant quelque chose qu'il ne s'explique pas. Alors ça passe aussi bien par de la magie au sens premier du terme, comme aussi la capacité d'un artiste à faire quelque chose d'absolument phénoménal. Il y a eu à Paris, il y a quelques semaines, dans le cadre du Festival mondial du cirque de demain, un numéro chinois, où un acrobate qui se tient en équilibre sur une pyramide de briques les écarte brusquement, donc il est à peu près à presque un mètre du sol sur ses briques, et il écarte les briques, elles tombent, donc dans une impulsion du poignet, et il tombe droit, et il se rattrape droit sur son bras, c'est-à-dire le bras est tendu. Imaginez la force que ça suppose, l'onde de choc que quand la main agrippe la brique, la première brique, et que le corps reste absolument droit. C'est phénoménal, c'est prodigieux, ça va au-delà de la physiologie humaine. On se dit, mais son os est en métal, il est désarticulé. Enfin, et on est dans quelque chose qui est évidemment non pas paranormal, mais qui rejoint cette idée qu'on est face à une espèce de surhomme qui s'offre deux fois ou trois fois par jour à la curiosité d'un groupe. Mais en même temps, on n'explique pas comment. Oui, il fait de la musculation, bien sûr. En même temps, ce n'est pas non plus un corps particulièrement surdéveloppé. Donc, il y a quelque chose là qui échappe à la raison et qui trouve, qui est un écho, en fait, de toutes ces notions que le cirque a cultivées, a cherché à s'approprier depuis le 19e siècle.
D'un grand artiste, 1931.
Monsieur le professeur.
De quoi ?
S'il vous plaît, enlevez votre chapeau.
Eh bien, je vais bien enlever mon chapeau. Seulement, ne frappez plus.
Non, non, je ne vous frapperai plus.
Non, ne frappez plus.
Non, non, vraiment.
Ça fait si mal. Eh bien, écoutez, vous savez, si vous me frappez encore...
Eh bien, quoi ?
Je t'en fais un.
Vidéo performance, le clown torture, Bruce Nauman, 1987. Les penseurs et écrivains du XXe siècle vont trouver dans cet art forain l'incarnation de figures hétérodoxes, comme chez Kafka, Bataille, Beckett, Gombrowicz. L'immaturité, l'avant du langage, le sordide et le sublime, jusqu'au supplice du clown hurleur pour un performeur américain comme Bruce Nauman, ou l'angoissante étrangeté du réel avec le cinéaste David Lynch.
Il me semble qu'il est très important d'apercevoir le caractère enfantin de l'érotisme dans son ensemble.
Georges Bataille.
Est érotique quelqu'un qui se laisse fasciner comme un enfant par un jeu et par un jeu défendu. Et l'homme que l'érotisme fascine est tout à fait dans la situation de l'enfant vis-à-vis de ses parents. Et il a peur de ce qui pourrait lui arriver et il va toujours assez loin pour avoir peur. Il ne se contente pas de ce dont les adultes vraiment sains se contentent. Il lui faut avoir peur. Il lui faut se retrouver dans la situation où il était enfant et où il était menacé constamment d'être grondé, même très sévèrement, d'une façon insupportable, intolérable.
C'était Royaume forain avec l'historien Pascal Jacob, les voix de Claude Lévi-Strauss, André Leroy-Gourand, Georges Bataille, Jean Rouche. Les films La nuit des forains d'Igmar Bergman, Lola Montes de Max Ophuls, Eraserhead, Elephant Man, Inland Empire, de David Lynch. Magie Noire, de Jean Rouch. Clown Torture, de Bruce Nauman. Et un extrait anonyme d'un numéro du clown Grock. Le Cirque, Mythe, Rite et Trans, une émission de Yann Siré, réalisée par Gaël Gillon. Mixage, Catherine Déréthé. Demain, Piste, les transmissions du Cercle.